Chinon sur Radio Armada.
Bonsoir. Ce soir, on refait le monde. Alain Desmarais sur Radio Armada pour une chronique hebdomadaire consacrée à l'état du monde et aux luttes de libération des peuples. Bonsoir à tous, donc nous espérons vous trouver en bonne santé et toujours prudent en ces temps où un ennemi invisible et redoutable continue de rôder. Nous sommes sortis du confinement, mais devons rester attentifs à ne pas nous exposer et donc à nous protéger et protéger les autres. Animateur de Radio Armada, après avoir été réduit au silence, nous avons adapté nos émissions afin de continuer à nous adresser à vous et de respecter les gestes barrières. Alassane, notre technicien, que nous saluons et remercions, est seul au studio. Les animateurs des chroniques différentes que vous retrouverez chaque soir animent de chez eux et nos invités également des quatre coins de France. C'est donc une émission plus courte sous forme de chronique que je vais vous présenter comme chaque semaine, le mardi à 19h, et cela jusqu'au début juin au moins. Une chronique toujours consacrée aux enjeux internationaux, dont la crise actuelle nous démontre encore une fois que dans un monde interdépendant, y compris et en particulier au plan sanitaire, la coopération, la solidarité à l'échelle du globe sont plus nécessaires que jamais. Ce soir, nous allons partir pour la Chine. La Chine au cœur de la crise du coronavirus. C'est de Chine, en effet, que tout aurait commencé. Comment? On ne sait pas trop. Chauve-souris, pangolin, accident de laboratoire, on saura plus tard. Mais toujours est-il qu'un virus mutant s'est rapidement transmis à de nombreux habitants de la ville de Wuhan, puis dans la province, puis au monde entier. Des dizaines de milliers de morts et des peurs ancestrales réactivées. Il n'en fallait pas plus pour que ressurgisse le fameux mythe éculé du péril jaune ou rouge selon le degré d'anticommunisme des commentateurs tarifés de la pensée unique. Trump, qui doit détourner l'attention de ses concitoyens, de sa propre gestion calamiteuse de la crise, il a fait en effet des USA la médaille d'or mondiale du nombre de décès du Covid-19. Trump, donc, a décidé de ranimer une violente campagne xénophobe. Hélas, suivie, comme trop souvent, par l'Europe et la France. La Chine serait responsable de tout, ou presque. Fuite volontaire d'un laboratoire, volonté de conquérir et dominer le monde, dissimulation du nombre de décès, etc. De son côté, la Chine se veut pourtant garante d'une vision solidaire, coopérative des rapports entre pays du globe, devenus interdépendants comme la crise du coronavirus nous le démontre. Et cela face à une vague virale de repli nationaliste qui est sans doute tout aussi inquiétante que le péril jaune. Il est vrai que les atteintes aux droits de l'homme et une conception du fonctionnement très militaire de la société ne rassure pas sur la sincérité des paroles et des actes des dirigeants chinois. Alors, Qu'en est-il de la place et du rôle de la Chine dans le concert des nations aujourd'hui? Doit-on en avoir peur ou peut-elle réellement jouer un rôle positif et moteur pour entraîner notre monde vers une mondialisation coopérative et solidaire? Nous allons en débattre pendant une petite demi-heure avec notre invité, journaliste, spécialiste des questions internationales et plus particulièrement de l'Asie, au journal L'Humanité. Bonsoir Lina Sankari.
Bonsoir.
Nous avons déjà eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques mois dans cette émission à propos des fameuses routes de la soie mises en place par la Chine. Vous allez bien tout d'abord ?
Ça va, écoutez. On fait un peu comme tout le monde.
Bon. Et comment vit l'humanité confinée tout d'abord ?
Je vous cache pas que c'est compliqué. Comme le reste de la presse, on a subi de plein fouet la crise. Il y a eu des désabonnements en masse parce que les gens ne recevaient plus le canard dans leur boîte aux lettres. Certains avaient peur d'être contaminés avec le film papier. Donc on a eu heureusement un rebond avec les abonnements numériques, ce qui nous a donné un petit peu d'air, mais la situation reste fragile. Et puis c'est vrai que réaliser un journal depuis chez soi, ça pose aussi des questions sur la manière de vérifier l'information. La situation est compliquée, mais on a des sujets qui permettent d'espérer. On a des bons retours tous les jours. Ce matin, dans le journal, on avait un sujet sur une plateforme de partage qui est sur le même modèle que Deliveroo, mais qui est solidaire, qui aide les plus précaires. Donc voilà, on donne aussi des motifs d'espoir dans un moment où je pense qu'il y en a plus besoin que jamais. Voilà, on essaye de donner des clés aussi pour comprendre le monde d'après, pour essayer de réfléchir. L'humanité a plus que jamais besoin de votre soutien. Et puis, on va essayer de continuer de faire ce travail difficile.
Donc, on appelle nos auditeurs à aller lire l'Humanité, soit s'abonner dans sa version numérique, soit la lecture papier qui a aussi ses adeptes encore. Alors, tout de suite, on va entamer notre débat. Lina Sankari, la Chine donc est accusée de tous les maux dans la crise du coronavirus. Erreur, retard, dissimulation, mais on a vu aussi qu'il y avait une formidable mobilisation de la Chine qui a maîtrisé la pandémie. Alors, pourquoi ce retour violent du péril jaune? Est-ce que c'est justifié? Et que révèle au total la crise du coronavirus sur la place de la Chine aujourd'hui dans les rapports internationaux, dans les rapports mondiaux?
Eh bien, je suis désolée pour ceux que ça va chagriner, mais cette crise, elle révèle que la Chine occupe désormais une place incontournable. Voilà, ça va peut-être pas forcément plaire aux États-Unis, on l'a vu avec les réactions de Monsieur Trump, et c'est la même chose en Europe, on le constate avec le suivisme d'Emmanuel Macron aujourd'hui dans les positions à l'égard de la Chine, qui nourrissent la suspicion, qui vous parliez du laboratoire tout à l'heure, ça a été démenti par tous les scientifiques et même par les renseignements américains eux-mêmes, mais on continue de distiller comme ça une petite musique qui finit, qu'on le veuille ou non, par rentrer dans les oreilles. Voilà, la Chine, elle aurait fauté. Alors, cette place incontournable, comment elle s'exprime ? On a bien vu que lorsqu'elle a commencé à freiner sa production en début de crise, c'est le monde entier qui n'a pas pu s'approvisionner, ça dans de nombreux secteurs. L'automobile, les nouvelles technologies, le textile, c'est le monde entier qui a subi un contre-coup et qui s'est mis de fait à l'arrêt. Donc, sa place dans les chaînes de valeur, elle est incontournable. Ça, c'est indéniable. Ce qui pose d'ailleurs des vraies questions sur l'état de notre propre outil de production, parce que délocalisé et sous-traité pendant des années. Ouais. Voilà. Et donc, on se retrouve complètement dépendant de la Chine. Et quand une crise comme celle-ci arrive, on se retrouve complètement démuni.
Bon. On ne peut pas accuser l'adversaire de nous marquer un but.
Voilà, exactement. Donc il y a l'affaire des masques et des médicaments aussi qui l'a démontré. Donc elle a aussi montré sa place, la place qu'elle s'était faite au sein des institutions internationales. À tel point qu'on a aussi accusé l'OMS d'être entre les mains de la Chine, ce qui est quand même un comble, parce qu'on a poussé ce pays pendant des années à accélérer son insertion dans les instances mondiales et aujourd'hui on le déplorerait. Bon, elle le fait avec ses méthodes, certes. mais elle le fait. Donc, aux Européens et à ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, de réagir face à cela. Bon. Et c'est justement parce qu'elle occupe aujourd'hui une place de second mondial qui est incontournable et qu'elle s'affirme qu'elle est aujourd'hui traitée comme telle et que les États-Unis jettent l'opprobre en ranimant un anticommunisme qui est digne de la guerre froide. Ils parlaient d'un virus chinois. Aujourd'hui, y compris les chercheurs n'hésitent pas à parler de virus du PCC, du Parti communiste chinois, ce qui est quand même gravissime. Ça va très très loin. Donc, soit dit en passant, l'hostilité à la Chine, et ça c'est une parenthèse, mais elle s'est jamais éteinte. Hein, le péril jaune, il restait bien vivace avant la crise. C'est ce qu'on entend à chaque rachat d'entreprise. Et qu'importe que les Européens, d'ailleurs, n'aient pas réussi à défendre encore une fois leur outil industriel. Voilà, c'est la Chine prend la main, on va être envahi, etc. Ils prennent le contrôle de notre outil industriel. Voilà, je referme la parenthèse. Sur cette hostilité, on voit par exemple le gouverneur du Missouri, mais il est loin d'être le seul, qui a demandé des réparations financières pour le virus. Il y a certaines tribunes dans les journaux aussi qui demandent même à ce que la Chine soit traduite devant une cour internationale pour les morts causées. Donc c'est aussi une tentative pour retourner la société chinoise contre son propre gouvernement. Et ça a poussé ce week-end, ça va tellement loin que ça a poussé ce week-end le ministre chinois des Affaires étrangères à rappeler que la Chine n'était pas l'Irak. Et donc en clair qu'on ne la renverserait pas si facilement. Donc elle se sent menacée, elle a des raisons de le penser. En plus de la guerre commerciale, ce sont je rappelle qu'il y a des dizaines de milliers de soldats américains qui sont positionnés dans son environnement stratégique, hein, avec un arsenal nucléaire comme c'est le cas en Corée du Sud. Donc, sur la première partie de votre question, qui était celle du retard à l'allumage, hein, en quelque sorte, il a été réel. Est-ce que c'était vraiment pour cacher l'ampleur de la crise, enfin de l'ampleur du virus en tout cas, ou plutôt par une volonté de maintenir la croissance économique à tout prix? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. C'est sûr qu'il y a eu des erreurs au niveau local, parce que ça s'est vite traduit par une reprise en main du pouvoir central. On a vu que le responsable de Wuhan avait été limogé. Que le Premier ministre s'est lui exposé en prenant la tête d'un comité de pilotage. Et justement, ça me fait penser à propos de ce manque de transparence, de cette censure. C'est vrai qu'il y a des lanceurs d'alerte qui ont été sommés de se taire. Mais dans le même temps, ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment il y a eu un certain relâchement temporaire dans le contrôle des réseaux sociaux. Ce qui a permis au pouvoir central de comprendre ce qui se passait justement à Wuhan à ce moment-là, parce que je pense qu'il n'avait pas les clés pour le faire. Voilà.
Alors, en même temps, je veux dire, bon nombre d'autres pays, et parmi les pays occidentaux, sont mal placés pour juger du retard à l'allumage, comme on dit, hein, parce qu'on ne peut pas dire que tous les pays aient pris conscience d'emblée de la gravité. Et ça peut se comprendre d'ailleurs, hein, de la gravité de la situation, hein, et de ce virus. Donc, c'est aussi…
Non, mais il est certain que dans cette affaire-là, c'était une manière de se défausser, de braquer les projecteurs sur les erreurs de la Chine, qui sont pour certaines réelles. Il y a eu sur les lanceurs d'alerte, je le disais. Néanmoins… Bien malin qui pourrait dire si le virus avait démarré chez lui, quelles auraient été l'attitude. On voit aujourd'hui sur les masques, de la manière dont ça se passe, les problèmes du décompte des morts, qui n'a pas lieu qu'en Chine. On l'a vu en Italie, on l'a vu en France.
Bon, on l'a vu en Angleterre, on comptabilise.
On l'a vu en Angleterre également.
Et c'est dans les EHPAD. Hein, donc,
voilà, exactement. Donc, gardons-nous de donner des leçons, encore une fois.
Comme on n'a pas trop de temps, on va tout de suite faire une petite pause musicale. Alors, comme de tradition, je demande toujours à l'invité de faire un choix. Vous nous avez fait un choix très particulier. Vous pouvez nous expliquer ?
Alors, en fait, c'est dans le cadre d'un festival qui a eu lieu l'an dernier à New York, qui invite, alors ça peut être rigolo que ça se passe aux États-Unis, mais oui. qui invite les musiciens chinois et américains à se rapprocher. Donc, c'est un peu ce que les Chinois appellent la compréhension mutuelle. Voilà, donc créer des ponts à travers la musique, je trouvais ça plutôt joli comme idée. Donc aujourd'hui, c'est un chef d'orchestre qui a créé une ode aux milliers de travailleurs chinois qui ont construit le chemin de fer à travers le territoire américain au 19e siècle.
Oui, parce que ça, c'est une histoire intéressante. Hein. C'est à l'époque, ils n'avaient pas peur du péril jaune. Hein. Bon. Eh bien, on va écouter alors. Hein. Alassane, à toi. Et bien après cette petite pause musicale typiquement chinoise, mais enregistrée aux États-Unis, on va poursuivre notre débat. Lina Sankari, je le disais dans l'introduction, on assiste dans le monde à une vague virale de repli nationaliste, et en particulier de la part des États-Unis, mais pas seulement. La Chine, elle, met en avant ce qu'elle appelle le destin commun de l'humanité. Est-ce qu'on peut la croire? Est-elle sincère quand elle prononce, quand elle affirme cette volonté, et que cherche-t-elle?
Alors Alain, j'ai envie de vous répondre par une autre question. Est-ce que vous pouvez me nommer un seul pays qui agit sans arrière-pensée?
Ah oh ben non, je pense pas.
Voilà, je crois que la réponse s'impose d'elle-même. Donc mettons au moins au crédit de la Chine d'être le seul pays à avoir inscrit le destin commun de l'humanité dans sa constitution. C'est déjà voilà. Pas mal. Voilà. Depuis 2013, ça se matérialise par la proposition faite au monde des nouvelles routes de la soie, hein, qu'on évoquait dans une autre émission, et qui est ce grand projet maritime et terrestre qui va en gros du Pacifique à la mer Baltique. et même plus désormais parce qu'il englobe aussi l'Afrique. Alors, comment elle le présente? Justement par un co-développement, un développement partagé qui amènerait la paix. Ce qui est certain, c'est qu'il vaut mieux partager des projets plutôt que d'évoquer un choc de civilisation pour penser la paix. Bon. Une fois qu'on a dit cela, on ne peut pas fermer les yeux sur le fait que ces routes de la soie, elles permettent également à la Chine de trouver des débouchés pour ses propres produits et de maintenir un taux de croissance acceptable. Donc ça, c'est pour les arrière-pensées. La question, elle est toutefois celle de l'utilité de certains de ces projets. Et je pense qu'elle ça se voit encore plus à l'aune de la crise. Est-ce qu'une île artificielle qui accueille un centre financier, une marina, des hôtels, des marques de luxe, est-ce que c'est la priorité actuellement pour un pays comme le Sri Lanka qui connaît une explosion de la dette au moment où on a une crise sanitaire terrible? Bon, on peut se poser légitimement la question. Donc, il va falloir sans doute que la Chine repense un petit peu son projet, mais comme elle a toujours un coup d'avance et qu'elle n'est pas l'abri d'une contradiction et qu'elle utilise justement ces contradictions pour rebondir dessus et pour avancer, elle parle, elle, maintenant de route de la soie sanitaire, donc de développer les structures sanitaires dans les pays qui sont en déficit. Juste une chose, et je vais finir là-dessus, vous parliez du virage nationaliste. La Chine, elle ne fait pas exception à ce niveau, hein. Il y a certains diplomates qui ont récemment eu des mots très durs, notamment l'ambassadeur de Chine en France. Des mots très durs et inhabituels même vis-à-vis de leurs partenaires. C'est un regain de nationalisme qui s'explique par les menaces dont je parlais tout à l'heure auxquelles elle fait face, hein, guerre commerciale.
Oui, ils n'ont pas habitué à ça. En général, ils étaient assez discrets au plan diplomatique, à tel point même qu'on pouvait se poser des questions sur le rôle qu'ils refusaient en quelque sorte de jouer au plan des institutions internationales.
Tout à fait. Et jusqu'à récemment, c'est vrai qu'ils se contentaient d'une. Ils votaient à peu près comme il fallait aux Nations Unies. Tout se passait dans la discrétion des salons. Mais là, on sent qu'il y a une affirmation et qu'il y a quelques diplomates, je ne dis pas tous, mais qu'il y a quelques diplomates qui emploient des mots très durs, notamment pour critiquer la gestion de la crise par certains pays, dont la France, avec des mots assez durs d'ailleurs pour les soignants qui ne sont pas très justes, avec des fake news parfois aussi, donc ce qui pose un petit peu plus problème. Mais je pense que ce nationalisme, il sert aussi à ressouder la population au moment où il y a des difficultés, justement, un chômage qui risque d'augmenter alors que la 2020 était censée être l'année de sortie de la pauvreté, de l'extrême pauvreté en tout cas pour une majorité de la population, et ressouder la population, ressouder le Parti communiste chinois aussi, parce que c'est très difficile de savoir ce qui s'y passe, mais on se doute bien qu'en ce moment, il y a des dissensions en interne sur la gestion de l'après. Est-ce que la Chine, justement, doit continuer à avoir cette attitude offensive ou est-ce qu'au contraire, elle doit se faire plus discrète parce que tout ça ne la sert pas au final? Ça, c'est des vraies questions qui se posent. Et donc, il y a la promotion, ce nationalisme, il est construit sur quoi? Sur deux choses. La promotion des succès économiques qui sont réels et l'idée d'une Chine millénaire forte qui se relèverait de la domination étrangère et qui se construirait un avenir. Voilà. Donc, elle n'est pas exempte, elle n'est pas épargnée aujourd'hui hein, du nationalisme tel qu'on peut le voir s'exprimer ailleurs dans le monde. Mmh.
Mais bon, alors dans ce monde où on a plutôt ces replis nationalistes, contrairement à la période où on avait beaucoup plus de multilatéralisme, hein, c'est-à-dire de coopération, de relations entre les peuples. Bon, on parlait de l'ONU, de l'OMS, qui sont le résultat quand même de ces coopérations et de ces volontés de travailler ensemble, d'avancer ensemble. Dans ce cadre-là, on voit bien quand même qu'entre Erdogan, Modi, toute une série d'autres, Trump également, il y a ces tendances au repli et à la compétition. Alors, là-dedans, on voit bien avec la crise du coronavirus que on ne peut pas poursuivre dans cette voie-là et que les coopérations, la solidarité sont absolument nécessaires. Est-ce que la Chine peut jouer un rôle positif dans ce sens? Parce qu'on voit bien que c'est quand même un peu compliqué. L'Europe est un petit peu à la ramasse, si on peut dire, hein, face aux États-Unis. Donc, est-ce que la Chine peut jouer un rôle positif hein, dans la construction d'une mondialisation solidaire, en quelque sorte?
Elle en a la prétention, en tout cas. C'est le concept millénaire de Tianxia, en fait, où tout ce qui existe sous le ciel trouverait sa place dans la gouvernance mondiale. Voilà, et ça, c'est un concept, c'est joli. Après,
oui, c'est beau.
Comment ?
C'est beau, oui.
C'est beau. Après, comment ça pourrait se traduire complètement, concrètement ? Je disais tout à l'heure que, après s'être intégrée, elle, au système international sur demande des États-Unis et de l'Europe, qui voyait là un moyen de changer le modèle économique et politique de la Chine post-maoïste, on voit bien comment, depuis quelques années, Pékin tente de contrebalancer un petit peu le modèle issu de la Seconde Guerre mondiale, justement en proposant des institutions capables de concurrencer le FMI, la Banque mondiale. Alors, c'était le cas avec les BRICS, qui ont quand même pris du plomb dans l'aile ces derniers mois.
On précise en deux secondes ce que c'est que les BRICS.
Les BRICS, alors, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc, c'est le
pays
groupe
émergent, quoi,
émergents, hein. Voilà, le groupe des pays émergents. Et elle le faisait aussi à travers sa propre banque de développement dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Donc ça participait de ce nouveau multilatéralisme qu'elle voulait. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que la Chine, elle profite de la place laissée vacante par le retrait des États-Unis pour jouer un rôle grandissant dans les institutions onisiennes. On a vu récemment le refus de Trump de continuer de financer l'OMS.
Oui.
Je ne vous vois plus.
Après avoir supprimé une partie des crédits à l'UNRWA.
Exactement.
Qui s'occupe des réfugiés palestiniens.
Exactement. Donc la Chine prend cette place. Est-ce que quelqu'un, voilà, est-ce qu'on pourrait lui reprocher encore une fois quand la place est laissée vacante ? Bon. Donc depuis le début de la crise, ce qui est clair, c'est qu'elle ne cesse de répéter que seule une coordination internationale pourra permettre de faire face au virus et de le combattre. Qui pourrait lui donner tort ? Très honnêtement, on voit qu'à l'échelle européenne, il y a différentes stratégies qui concernent le confinement, le déconfinement, la fermeture des frontières. Tout ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, il faut redonner de la cohérence. Pour la Chine, il n'y a pas d'autre solution qu'une gouvernance sanitaire mondiale. Alors, quand les États-Unis exercent un espèce de leadership isolé, parce qu'ils restent quand même maître du jeu, c'est compliqué, faudrait édicter des normes sanitaires communes au lieu d'additionner 193 politiques nationales et ça demanderait également un vrai projet d'assistance sanitaire. La Chine, elle veut aller dans ce sens. Elle a proposé des budgets qui représentent plusieurs dizaines de milliards de dollars, notamment à l'OMS et à quatre autres instances, il me semble, pour construire des systèmes sanitaires, comme je disais, dans les pays où ils font défaut. Mais il faut aussi que la Chine elle montre l'exemple.
Ouais.
En disant quelle part de souveraineté elle est prête à abandonner entre les mains de l'OMS. Mmh. Ça, c'est pas évident du tout. Mmh. Pour l'instant, elle a refusé l'enquête qui était proposée, en tout cas pour comprendre les origines de la pandémie, pour éviter qu'une autre crise du même type ne se reproduise. Et ce qu'elle a du mal à saisir, c'est qu'il ne s'agit pas d'accuser, mais de comprendre, et qu'il en va de la santé mondiale. La preuve, aujourd'hui, le monde entier est confiné, l'économie s'arrête, et Oxfam nous dit que c'est des centaines de millions de personnes qui risquent de se retrouver dans la pauvreté. Bon. Donc les enjeux sont ceux-là, ils sont quand même assez conséquents. Donc c'est la première des obligations multilatérales si elle prétend jouer un rôle plus important. Faut qu'elle montre qu'elle est digne de confiance. Ensuite, à partir de ça seulement, je pense qu'elle pourra proposer des orientations concrètes et globales. Allez, je finis, parce qu'il ne suffit pas d'envoyer des masques ou des équipes de médecins en Italie. Bon, son image, elle est écornée. Et son modèle, même si elle n'a pas la prétention d'en être un, clairement, il ne fait pas rêver. Donc, il va falloir qu'il y ait encore du travail pour convaincre. Voilà.
Alors, elle fait des efforts tout de même, puisqu'ils ont partagé, par exemple, le séquençage du virus, etc. Hein, voilà.
Absolument.
Alors, on arrive à la fin de notre émission. C'est un peu court, mais c'est un format confiné. Merci, Lina Sankari. Et alors, transmettez à la direction, à la rédaction de l'Humanité, nos voeux de plein succès, hein, à l'occasion de la sortie du confinement pour l'UMA aussi. L'humanité qui apporte, comme vous l'avez dit au départ, hein, un autre regard sur les questions internationales, et dans les colonnes duquel on peut vous retrouver régulièrement. Bonne soirée à tous. On arrive à la fin de l'émission. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et alors, justement, pour poursuivre notre débat, il sera question de parler des États-Unis dans la crise du coronavirus et dans le grand concert de la mondialisation. Merci beaucoup. Bonne soirée.